France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Avec sa guitare, il tire le portrait des gens qu'il a croisés en 15 ans de concerts à travers le monde. Thibaut Covin sera mon invité à partir de 13h. Et pour commencer, les midis, la sacro-sainte discussion critique. Aujourd'hui, on parle littérature avec un routard du roman noir et ou fantastique, Stephen King, qui revient avec « Ne jamais trembler » paru chez Albin Michel. Et puis avec un nouveau venu qui fait ses premiers pas d'écrivain, ou presque, c'est l'acteur Tom Hanks. Son roman « Naissance d'un chef-d'œuvre du cinéma » a paru au Seuil. Vous écoutez les midis de culture, allez, encore une danse. Et je vous présente les danseurs du pas de deux du jour. Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture sur France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour. François Angelier, producteur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
Holly n'a pas totalement renoncé à attirer Izzy du côté obscur. Surtout depuis que son partenaire, Pete Huntley, a pris sa retraite, lui laissant le soin de diriger seul l'agence Finders Keepers, avec le soutien occasionnel de Jérôme et Barbara Robinson. Elle n'a pas ménagé sa peine pour expliquer à Izzy que Finders ne s'occupait pas d'affaires de divorce. Regarder par le trou de la serrure, éplucher les réseaux sociaux et les textos, prendre des photos au téléobjectif, pas question. Chaque fois que Holly a évoqué ce changement de carrière, Izzy a promis d'y réfléchir. Ce qui voulait dire, Holly en était sûre, qu'Izzy attendrait ses 30 ans d'ancienneté dans la police et prendrait sa retraite dans une résidence au bord d'un golfe, en Arizona ou en Floride. Seule sans doute. Après avoir perdu deux fois la loterie du mariage, elle ne cherchait pas, selon ses dires, une nouvelle liaison. Surtout du genre conjugal.
Voilà plus de 50 ans que Stephen King fait trembler ses millions de lecteurs, tantôt en creusant sa veine la plus fantastique, comme dans ça, tantôt dans ses huis clos malades et paranoïaques comme Shining ou Jesse, ou encore dans ses policiers, tout à fait ancrés dans la réalité, comme Mr. Mercedes ou comme le roman dont nous parlons aujourd'hui, Ne jamais trembler. Et celui-ci s'inscrit aussi dans les livres où King déploie une construction complexe et beaucoup de personnages. Ici donc, on retrouve Holly Gibney, une détective privée. Elle va devoir jouer sur deux tableaux, traquer un criminel qui promet de tuer 14 personnes en réponse à une erreur judiciaire, et protéger une militante féministe pendant ses meetings. On commence avec un avis en quelques mots, François Angelier, qui a l'air perplexe.
Celui qui ne tremble pas, c'est le lecteur.
Ah, c'est quelques mots.
Ouais. Marie Sorbier.
Bon, alors, les amateurs d'horreur ou de fantastique vont être déçus, je crois qu'on peut commencer comme ça.
Ouais.
Mais les lecteurs de romans sociétaux, eux, vont peut-être être comblés parce que King, en fait, livre là vraiment certes un roman policier, mais c'est vraiment plus un roman sur la société américaine aujourd'hui avec des vraies prises de position politique. Hein. C'est un roman qui parle du militantisme, du féminisme, des sectes religieuses. Enfin, il y a beaucoup de thèmes, mais qui sont des thèmes sociétaux. Par contre, c'est vrai que on n'a pas peur. C'est pas un roman d'atmosphère comme on a pu avoir parfois avec King, en fait. Hein. C'est vraiment un roman un peu à l'ancienne. Parfois, alors je sais que ça va être un gros mot, mais ça m'a presque fait penser un peu au roman d'Agatha Christie, tellement c'est écrit comme presque un grand-père. Il y a quelque chose d'un peu pépère dans ce livre-là. Voilà.
Alors, François Angelier.
Ben, moi, ça m'a vraiment, enfin, je veux dire, j'ai eu le sentiment d'être au bord d'une autoroute où une voiture passe toutes les 20-25 minutes à peu près. Et entre les deux, il y a un silence épais et on somnole un peu. Alors, effectivement, je disais, celui qui ne tremble pas, c'est le lecteur, parce que King, qui a une maîtrise totale de ce qu'est les récits, les dialogues, on va pas en revenir là-dessus, ça fait 50 ans qu'il écrit, 200 nouvelles, 60 romans, quelques chefs-d'œuvre dans la terreur, l'inquiétude, l'angoisse, avec des personnages emblématiques et tout. Bon,
François, non, mais si ça m'intéresse, quel chef-d'œuvre pour vous, par exemple, chez Stephen King?
C'est le fléau, justement, oui. C'est quelqu'un qui sait maîtriser, dans le rodéo littéraire, qui sait maîtriser les grandes longueurs. Il peut faire 1500 pages sur... avec avec le fléau, il peut faire l'équivalent avec ça, par exemple. Il maîtrise ces énormes paysages comme ça, dans lesquels il fait évoluer des personnages vibrillonnants, vivants, inquiétants, sympathiques et tout. Mais là, on est quand même dans une sorte de somnolence aggravée. C'est quand même un peu gênant. Alors, de fait, c'est pas un problème que ce soit un roman sociétal où il pose des questions qui sont de l'ordre du militantisme politique, du militantisme religieux. Le sujet n'est pas un problème. C'est simplement que ça s'étire, une espèce d'aligot comme ça, qui s'étire à n'en plus finir. De temps en temps, on a envie d'un électrochoc, parce que même les scènes, je veux dire, bon, on va quand même commencer à rentrer dans le dur.
Il y a quand même un tueur dans l'histoire.
Oui, voilà.
Ah, il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est emblématique de King, c'est l'espèce de tueur solitaire, qui s'est créé sa mythologie personnelle, un peu messianique, une sorte d'antéchrist au petit pied. Mais les scènes de tuerie sont quand même extrêmement expéditives.
Mmh. Voire sobres, par moments.
Voire d'une sobriété inquiétante. Ce qui fait que, bon... On est plus dans des débats de société, des débats politiques menés avec une... On a le temps, alors on insiste, on développe, on ramifie, on s'amuse. Bon, mais comme dirait l'autre, on est là pour voir mourir le taureau. Enfin, je veux dire, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais on est venu quand même là pour la mise à mort. Et là, on attend quand même quelque chose qui... Alors peut-être que je suis un Kingien classique, conservateur, qui ne veut pas que le maître évolue, mais si j'ai bien lu la postface, ça n'a pas non plus c'était facile pour lui de l'écrire.
Marie Sorbier.
Oui, en effet, dans sa postface, il dit que ça a été compliqué, que sa femme l'a fait refaire plusieurs fois l'ouvrage parce qu'elle estimait qu'il pouvait faire mieux et qu'il a fini par le rendre à son auditeur parce qu'il faut bien à un moment donné le rendre, mais qu'il n'est pas totalement satisfait du roman tel qu'il est. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont gênée, si on part du côté négatif, c'est que ça s'annonce quand même comme sur un livre sur la culpabilité et l'expiation. Donc j'attendais un livre éminemment
ça c'est le prétexte
chrétien. Je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il va nous faire là-dessus? Et puis, on attend King sur ce genre de sujet. Donc, et puis, ça commence vraiment comme ça. Hein. La mort, c'est « Je vais tuer 13 innocents et un coupable. Ainsi, ceux qui ont causé la mort de l'innocent souffriront. Il s'agit d'un acte d'expiation. » On ne peut pas faire plus chrétien que ça. Donc, j'attendais ça. Or, ça, c'est très vite mis à l'amende, en fait. Ce sujet de la culpabilité, il est traité un peu de biais, un peu de côté. En tout cas, il ne développe pas du tout, et ni sur le thème de l'expiation, d'ailleurs. C'est le premier tueur, hein, qui donc veut réparer une erreur judiciaire en tuant des innocents, voilà, parce que celui qui a été mis en prison était lui-même innocent.
Et a été jugé par 13 jurés.
Et a été jugé et s'est fait tuer en prison, donc il veut réparer ce tort-là. Mais ce qui était pourtant un thème, on s'attendait à une ficelle un peu plus drue sur ce thème-là, or il l'évacue complètement. Ce qui est étonnant dans ce livre, c'est King, en fait, est en construction en miroir total. Et une fois que j'ai remarqué ça, je me suis dit que ça marchait pour tous les personnages. C'est-à-dire, par exemple, il y a deux détectives. Holly Gibney, que vous avez cité, qui est un personnage récurrent. Hein. C'est la 7e fois, je crois, que King utilise cette détective d'un certain âge, qui, là, pour le coup, n'est pas le personnage principal au départ de ce livre, puisqu'il y a une autre enquêtrice qui s'appelle Izzy, mais qui va le devenir, puisque c'est elle qui va prendre le fil parallèle du roman. Donc, elle devient le garde du corps de cette militante féministe. Donc, il y a les deux enquêtrices qui sont en miroir, mais il y a également deux tueurs qui eux-mêmes sont en miroir, ils n'ont rien à voir mais tout correspond. Il y a deux jeunes femmes aussi, une qui s'occupe de la militante féministe et une amie de la détective. C'est pareil, c'est un peu les jeunes femmes qui entrent dans la vie et qui ont envie de faire plein de choses mais qui sont quand même très fragiles et innocentes et évidemment qui vont être sacrifiées à la fin du livre, etc. En fait, tout est multiplié en miroir, ce qui fait qu'au départ j'ai trouvé ça assez malin avec une mécanique plutôt huilée et en fait au bout d'un moment c'est devenu très systématique parce que sa construction, on la voit apparaître ad libitum, jusqu'à presque une mise en abîme du deuxième tueur, qui lui-même est double, puisque là, il propose un tueur avec un gendre fluide, c'est-à-dire qui est à la fois fille et garçon, et qui, selon les moments de la journée, se sent plutôt garçon ou fille, puisqu'il a pris la place en fait, de sa sœur jumelle, donc il est les deux en même temps. Donc on a tout est construit comme ça, dans une espèce de construction ultra maîtrisée qui finit par nous faire dire que peut-être c'est parce qu'il n'arrivait pas à dire ce qu'il avait vraiment envie de dire, qu'il a tellement construit que c'est si serré, quoi.
Moi, je reviens à ce que je disais, tout ça c'est très bien, pourquoi pas ? pourquoi pas La septième fois avec Holly Whitney, pourquoi pas une construction en miroir avec les tueurs qui se dédoublent et tout et tout. Pourquoi pas? Mais c'est le traitement, je veux dire, c'est l'écriture, c'est la distribution des la manière dont c'est géré sur le plan de la narration. Je vous dis, c'est vraiment, c'est plus le hors-bord, c'est la péniche. Il y a encore la péniche qui a des problèmes de carburation, quoi. On est dans une lenteur qui confine par moments à la somnolence.
Mais c'est les fils parallèles qui font ça, non?
Non, c'est simplement qu'il y a des moments intermédiaires, il y a des scènes secondaires qui durent beaucoup trop longtemps. Je veux dire, moi j'aime bien le King qui fait durer.
Oui, parce
la durée devient un problème.
On retrouve pas les obsessions habituelles de King.
Non, il y a pas le croque-mitaine, il y a pas la secte,
l'enfance sacrifiée,
la secte atroce qui jouit de l'espèce d'énergie de la douleur que libèrent des enfants à l'agonie. Enfin bon, c'est quand même quelqu'un qui est capable d'avoir des idées, une imagination morbide et létale absolument formidable. Et là, bon, bah, on est tranquille. Alors c'est bon, bah, on va tuer 12 personnes. Alors bon, bah, je vais en faire 2 aujourd'hui. Après, je vais souffler un peu. J'en ferai 2 à la fin de la semaine. Alors bon, bah, je les prends au hasard. Salut ami, comment tu vas? Pouf, t'es mort. Bah voilà, c'est bon, il est mort. Bon.
Okay. Oui, c'est décevant pour une
mort. C'est décevant parce qu'en fait, ce qu'il a voulu faire, je crois, Stephen King, c'est pas du tout un polar, mais bien un livre sociologique.
Oui, voilà. Bah, à ce moment-là, qu'il le fasse. mais bon, il est quand même tributaire d'une œuvre, d'une inspiration, d'une image. Donc, il a nécessité de satisfaire les amateurs de récits criminels ou de récits fantastiques.
Et qu'est-ce qu'il raconte sur l'Amérique Trump?
Il fait quand même un portrait de l'Amérique d'aujourd'hui dans son côté complètement tiraillé avec un militantisme quand même très assumé, féministe, dans cette période de Kate. Vous savez qui sont ces femmes qui vont faire des grands meetings à travers les États-Unis dans les salles des fêtes qui sont avec 3 ou 4000 personnes et qui vont haranguer la foule pour défendre le combat féministe et notamment par exemple pour défendre l'avortement, vous voyez, des sujets comme ça, et qui évidemment se retrouvent à chaque fois avec des opposants. Donc il y a les 3000 convaincus et puis les 100 contre qui viennent mettre le bazar dans le meeting. Et ça, il le raconte très bien.
Et parmi eux, peut-être le criminel. Enfin, je veux dire,
le deuxième tueur.
Le terroriste, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça
et ce qu'il raconte là-dessus, j'ai trouvé ça assez juste. En tout cas, c'est la vision aussi que je me fais des États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les combats militants, on est vraiment sur le terme de combat. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dans l'arène et qui vont, grâce aux mots, grâce à l'éloquence, mais grâce aussi à une prestance physique. Il insiste beaucoup là-dessus, sur cette femme qui fait vraiment un show, comme pourraient le faire les...
Il y a une vedette, une vieille vedette du rhythm and blues, là, qui...
Ah oui, il y a un autre personnage.
Voilà, alors pareil, je parlais des miroirs, bah pareil, autre miroir, on a la militante qui fait des shows, et en parallèle, on a cette vieille chanteuse...
Il faut un peu penser à Sister Rosetta Tharpe, qui était une formidable guitariste et chanteuse de gospel, rhythm and blues. Il y a un peu de ça, quand même.
Oui, oui, qui, elle, revient, en fait, après avoir ne pas avoir chanté pendant des années, en fait, elle revient sur scène, et pareil, là, on suit les deux tournées, finalement, la tournée de la féministe et la tournée de la chanteuse, qui vont évidemment se retrouver dans un point central. Tout le livre, en fait, converge vers le point central. Là où je rejoins un peu François, c'est qu'on comprend très vite. C'est-à-dire, en effet, il y a plein de fils narratifs. Il les suit. Moi, je trouve qu'il les mène relativement bien, mais c'est vrai qu'on devine très vite l'issue. C'est-à-dire, on sait qu'ils vont tous se retrouver au même endroit, au même moment. On connaît l'événement qui va les faire se retrouver. Il n'y a pas de suspense
bien,
non plus, quoi.
C'est la patinoire.
Alors la patinoire.
On n'en dit pas plus.
Ah ça d'accord, on arrête sur la patinoire.
On peut dire un peu.
Le cliffhanger de la patinoire.
La patinoire qui est un lieu, une sorte, dans sa mythologie personnelle, dans ses souffrances, son angoisse familiale et ses souffrances psychologiques, la patinoire est un lieu, je ne vais pas dire charismatique, mais un lieu élu, un haut lieu pour le criminel. Et ça, alors là, j'ai commencé à me dire, ah, vivement qu'on revienne souvent à la patinoire.
Mais ça arrive assez tard, hein, la patinoire. Hein,
ça arrive assez tard, mais là je me dis, tiens, voilà King qui...
King qui revient. Tout dernier
oui,
mot.
Oui, je disais sociologique aussi parce que j'ai trouvé qu'il donnait beaucoup d'excuses aux tueurs, c'est-à-dire qu'il remonte quand même généalogiquement pour expliquer pourquoi ces deux tueurs en puissance sont devenus des tueurs, et notamment avec les figures des fantômes qui sont dans les têtes des
le
tueurs.
Père.
Le père qui dit mais pourquoi, en fait, il le traite de mauviette. Enfin bon, il faut aller tuer et pourquoi tu le fais pas et tu n'y arriveras jamais. Comme s'il y avait une généalogie de la violence et qu'en fait. Il pardonne un peu, je trouve, à ces tueurs.
Non, il pardonne pas, mais il montre les racines psychologiques et familiales de de ce qui est l'idéologie radicale aux États-Unis, ce qui est un classique dans le thriller et dans le récit policier. C'est qu'en définitive, on est l'antéchrist, on est le sombre messie qui va purifier le pays, et en définitive, tout ça, c'est pour venger le jour où maman vous a mis tout nu dans la cour devant les copains. C'est à ce moment. On connaît ce processus, mais là, effectivement, c'est pas mal fait. Ça, c'est un bon aspect du roman.
Ne jamais trembler, Stephen King, qui est paru le 2 février dernier aux éditions Albert Michel, traduit de l'américain par Jean Hesch. C'est l'heure de votre coup de cœur, François Angelier,
oui.
Pour le dernier Joseph O'Connor.
Mon vieux cœur, qui adore prendre des coups, et là, il se prépare à en prendre. Je le dis quand même, honnêtement, je n'ai pas encore ouvert le livre, mais O'Connor, Joseph O'Connor, c'est l'homme qui a fait quand même le bal des ombres et dans la maison du père, le premier sur la naissance de Dracula et tous les milieux très interlopes de la Londres victorienne et la maison du père. Étant un roman sur tous ces réseaux anti-nazis installés dans Rome et notamment au Vatican au moment où il n'y a plus grosso modo que Pie XII et Himmler, bonjour le face-à-face. Et là, on se souvient de ce premier roman avec ce monsignor irlandais champion de boxe absolument extraordinaire et toute cette espèce de petit club autour de lui, de résistants, de partisans, de gens qui ne se rendent pas et qui la nuit organisent à la fois des fuites, des opérations coup de poing et tout. Et là, c'est la suite. Les fantômes de Rome. Alors j'espère que les fantômes de Rome seront au rendez-vous. Ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas, puisque O'Connor est quand même un très très grand romancier. Donc vivement.
Vivement. Les fantômes de Rome, Joseph O'Connor, chez Rivage.
Par le passé, la routine de travail de Bill avait consisté à s'asseoir à son bureau de dactylographie et à écrire. Écrire. Écrire tel un Jack Kerouac sous Benzedrine. Passant des heures entières penché sur son clavier, jusqu'à ce que soit une histoire lui vienne, comme dans un rêve fiévreux, soit il jette sa machine à écrire par la fenêtre, de frustration. Trop souvent, ses divagations perdaient toute notion, à la fois du temps et de la logique, aboutissant à des pages et des pages de divagations poétiques sans queue ni tête. À l'inverse, certains jours, il restait assis devant sa machine des heures durant, sans rien à montrer à la fin, l'esprit vide, l'imagination pétrifiée. Une feuille vierge dépassant du chariot dans un état de stase cosmique. Mais la discipline qu'il s'était lui-même prescrite exigeait qu'il reste à son bureau, quoi qu'il arrive, qu'il tape n'importe quoi. Et de ce labeur acharné, Dieu sait comment, naissaient les scénarios de Bill.
On enchaîne avec le premier roman de Tom Hanks, Naissance d'un chef-d'œuvre du cinéma, paru aux éditions du Seuil. L'acteur aux 2 Oscars avait déjà publié un recueil de nouvelles, bien accueilli par la critique d'ailleurs. Il se lance ici dans une ambitieuse chronique de la fabrication d'un film à gros budget à Hollywood. C'est un roman choral où chaque rouage du cinéma a droit à la parole, du scénariste au réalisateur, en passant par le chauffeur de taxi, l'assistante de production, le maquilleur, etc. Tom Hanks raconte la folie de l'entreprise, sa magie aussi, in fine. On commence avec quelques mots, Marie Sorbier.
Ouais, pour moi, c'est plutôt une bonne surprise. Alors, pas tant du point de vue littéraire, hein, je vais moins défendre la forme que le fond, mais disons que j'ai lu ce livre avec plaisir. Alors, d'abord parce que je trouve que l'auteur manie l'ironie et l'humour et que ça fait du bien dans les romans, parce que j'ai quand même ri plusieurs fois. Et surtout parce qu'il démontre, alors je trouve avec brio, et c'est le gros avantage du livre, que le cinéma est avant tout un art collectif.
François Angelier.
Oui, tout à fait. Rien de vraiment différent par rapport à ce qu'a dit Marie. Alors, je vais encore faire le malin, mais ce qui m'a beaucoup séduit, c'est peut-être les 100 premières pages, mais le reste est bien aussi, enfin, je le dis tout de suite. Hein. Mais il y a toute une histoire au début d'un petit garçon un peu solitaire, qui vit dans les profondeurs de l'Amérique, qui recopie, qui découvre les comics, qui les recopie, et qui y a une scène extraordinaire avec son oncle, parce que toute l'histoire de cette famille qui est très marquée par la Seconde Guerre mondiale, notamment la guerre du Pacifique, le retour d'un oncle qui est un Hells Angels, ça faut dire les choses, c'est marrant, l'expression n'est pas,
non,
employée,
pas employée,
mais je crois que les Hells Angels n'aiment pas qu'on les cite de manière comme ça, abusivement, littérairement. Donc cet oncle revient, qui est à Hells, et il y a tout un moment initiatique où l'enfant découvre l'univers, la guerre, le dessin et un peu la vie, enfin ce qui va être le sens de sa vie, avec cet oncle Hells qui lui offre des comics dans un bar et qui l'abandonne. Et là, on n'est pas loin de Flannery O'Connor. C'est-à-dire cette capacité à faire une sorte de réalisme qui brusquement devient totalement pétrifiant. Après, bon, je dirais, après la littérature reprend ses droits, et on a une Tom Hanks, évidemment, bénéficie d'une expérience professionnelle dans le milieu du cinéma qui est telle qu'il peut chroniquer par le menu, mais alors on est vraiment dans le menu du menu, enfin, lequel bruit fait la photocopieuse, combien de temps il faut pour avoir 4 cafés à la distributrice, enfin bon, par le menu, un tournage, et c'est vrai que c'est très très savoureux, quoi.
Marie Sorbier.
Oui, parce qu'en fait, on n'est pas tellement dans les coulisses de la fabrication d'un film, mais on est vraiment dans la fabrication, dans la machine. Et c'est ça que j'avais rarement lu à ce point de détail. En effet, François, vous le dites très bien, on est vraiment dans le menu détail, mais c'est par cette accumulation de détails qu'on commence à comprendre le projet de Tom Hanks. C'est ce que je vous disais sur cet art collectif. Je trouve que c'est une interrogation qui est très contemporaine. Il y a beaucoup de critiques de cinéma qui s'interrogent là-dessus, en disant mais pourquoi on ne cite toujours que le nom du réalisateur, alors que pour faire un film, on le sait, il faut 200, 300 personnes. Là, je trouve que Tom Hanks fait une démonstration. Il le dit d'ailleurs à un moment donné très très clairement, si chaque petite main ne fait pas son travail parfaitement, en fait le film tombe. Et il remet en fait les rôles principaux, que ce soit les réalisateurs ou les acteurs 1, acteurs 2 comme il les appelle, par ordre de générique, à leur place, c'est-à-dire un des maillons de la fabrication de la chaîne. Il utilise pour ça un procédé littéraire très classique, et il en abuse d'ailleurs, mais qui est quand même efficace, c'est-à-dire qu'il fait toujours des flashbacks. Dès qu'on rencontre quelqu'un, mais que ce soit le maquilleur, ou par exemple, l'assistante de la sous-assistante de la sous-assistante de production, c'est-à-dire la jeune fille qui va faire des cafés. C'est ça son boulot sur le tournage. Eh bien, tous les personnages, en fait, sont resitués dans leur univers. On raconte sa vie, il nous parle de ses parents, d'où ils ont grandi, pourquoi elle en est arrivée là. Et puis souvent, d'ailleurs, c'est souvent le fait du hasard. Cette jeune femme qui fait les cafés, qu'on va suivre comme ça tout le long du tournage, en fait, elle était chauffeur, alors c'est pas Uber, mais c'est Pony, enfin vous voyez, chauffeur de VTC. Et puis, elle s'est retrouvée là, on lui a demandé d'aller chercher des cafés, puis finalement, elle est restée sur le tournage pendant des années, et puis c'est devenu son métier. Je trouve ça très juste de rendre, en fait, à ses petites mains, ce qu'on appelle les personnages de l'ombre dans un tournage, en fait une vie. Ils ne sont pas que leur fonction. Voilà, un maquilleur n'est pas que maquilleur, il a aussi une vie, il a aussi une famille, il prend sa retraite, il est amoureux, etc. Et donc ça, je trouve ça très humain de la part de Tom Hanks d'avoir restitué en fait tous ces humains qui fabriquent un film dans leur entièreté. Je trouve ça très beau comme projet. Et la deuxième chose que j'ai trouvée très belle, je suis sûre que François l'aura relevé aussi, mais c'est qu'en fait ce livre, en sous-texte, il y a Hamlet. Il le cite en exergue, en fait. Son exergue, c'est... Déjà, j'étais très surprise de voir qu'en exergue une réplique de Horatio. Bon, très bien. Et en fait, plusieurs fois dans le livre, en note de bas de page, les notes de bas de page souvent très drôles, en fait, parce qu'il commente ce qu'il est en train de dire avec un niveau de détail. On est complètement perdu, mais elles sont très drôles. Mais souvent, il fait référence à Hamlet. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que qu'est-ce qu'il veut nous dire, Tom Hanks, que le plateau, en fait, de tournage, c'est une scène de théâtre. Et quand il cite Hamlet, il cite quoi? Les scènes avec les comédiens. Vous savez, les comédiens qui vont faire en sorte que la réalité soit dévoilée, même quand on veut pas. Et en fait, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que sur un tournage, quand on est en train de fabriquer un film, c'est là où se révèle la vérité des gens, en fait, qui ils sont.
François Joly.
Oui, c'est une vision du cinéma qui est absolument pas la vision traditionnelle pyramidale, avec en haut le producteur, en dessous le réalisateur qui ne parle pas aux acteurs sauf par assistant intermédiaire, après, les stars à peu près au même niveau, et puis ensuite une espèce de peuple totalement effacé, oublié, anonyme, des figurants, des techniciens et des gens qui n'ont que des métiers passagers et précaires. Là, au contraire, il renverse la pyramide et il nous met le réalisateur comme une espèce de bourrin, là, de cheval de trait, qui est obligé de traîner le projet, mais qui est à côté à l'heure de la Volga. Là, il a l'impression qu'il tire, il s'essore complètement mentalement pour arriver à trouver. Et puis, vraiment, il y a une mise en valeur de toute ce peuple d'Hollywood, enfin, ce peuple du cinéma, qui est la véritable cheville ouvrière, avec d'autant plus la manière de montrer qu'on ne sait pas où on va. Moi, c'est ça qui m'a
plu. C'est ma question, c'était. C'est une intrigue. Est-ce qu'on se demande si le film va finir ?
Il y a une intrigue tant que... Oui, il y a une intrigue. Mais je dirais, fondamentalement, on a beau, planifier, organiser, calibrer, faire un casting d'enfer, c'est-à-dire limiter au maximum les malchances possibles et le pourcentage d'incertitude, Peu importe, on ne sait pas quel est l'avenir du film. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que il y a toujours cette espèce de... On est toujours au bord du ravin, on ne sait pas si ça va être une ascension ou un effondrement. Et là, il arrive à faire sentir ça. On a même l'impression que l'énergie psychologique et sociale même qui construit un film est une manière de faire oublier qu'en définitive, on ne sait rien de ce qui va se passer.
Mais c'est intéressant aussi à l'heure où le cinéma et le cinéma fait par des humains est mis en danger par l'IA, par le numérique, par voilà. Cette troupe-là est appelée peut-être à disparaître, sans que je le souhaite, évidemment.
Oui, oui, c'est une vraie déclaration d'amour, en fait, au milieu du cinéma. Alors, il n'est pas béni, oui, pour autant. Hein. Il est assez caustique sur ses congénères, même sur les acteurs. À un moment donné, évidemment, il y a un changement de casting parce que le rôle principal étant un acteur insupportable, qui vraiment fait sa star au sens premier du terme, et il le traite de façon assez ironique. Et d'ailleurs, cet acteur-là va devoir partir. Mais les scènes sont au KB, voilà. Mais les scènes sont quand même très justes, très bien croquées. Et on sent encore une fois que voilà, il a vécu tout ça. Tout ça doit être des éléments vrais mis ensemble. Peut-être un mot quand même sur la forme du livre, parce que François a évoqué ce petit garçon du début qui dessinait les comics. C'est l'auteur de l'histoire qui va servir au scénario. Donc en fait, on remonte sur cet auteur de comics qui avait complètement oublié d'ailleurs cette BD où il voit son oncle en lance-flamme pendant la guerre.
Une description sur 10 lignes de ce qu'est un lance-flamme et de l'effet que ça donne, qui est assez extraordinaire.
Et donc en fait, ce qui est très beau dans ce livre-là aussi, c'est qu'ils se sont permis de mettre des reproductions de couleurs. Comics en couleur, mais on a plusieurs pages donc de ce comics. Alors ça doit être le comics dit original où on voit donc l'oncle avec le lance-flamme, etc. Il y a plusieurs fois en fait des reproductions, comme à la fin, on voit en fait le comics qui a lui-même été tiré du film puisque ça a été un succès, etc. Mais il y a une attention à la forme, notamment aux lettres capitales. Il y a beaucoup de mots écrits en lettres capitales, comme sur les scénarios. Les
notes c'est surprenant quand même.
Oui, il y a quand même un travail. Quoi. Les notes de bas de page, je le disais, mais il y en a beaucoup.
Tout à fait, c'est un véritable objet. Enfin, c'est pas un livre objet, mais presque. C'est-à-dire que c'est un roman qu'on lit avec bonheur, mais en même temps, ça a peut-être cette espèce de morphologie de typographique comme ça, littéraire, de ce qu'est un scénario.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on est presque avec les deux colonnes. Mmh. C'est très rusé quand même.
Et il y a cette blague, si on a le temps, c'est d'expliquer pourquoi c'est que le mercredi, les tournages commencent le mercredi.
Ah oui, il explique ça, qu'il faut commencer le mercredi pour avoir une demi-semaine, parce que de toute façon, il y a plein de choses qui vont foirer, donc on doit avoir le week-end vite.
Pour pouvoir virer les gens. On en réembauche pour le lundi. Bravo. Naissance d'un chef-d'œuvre du cinéma, c'est donc le premier roman de Tom Hanks qui apparaît aux éditions du Seuil, traduit par David Fauquemberg. Merci beaucoup François Angelier, merci Marie-Claire Billet d'être venue dans les midis. Et j'en profite aussi pour remercier Marceau Vassy et Nicolas Berger pour les lectures des deux extraits du jour. Évidemment, toutes les références, toutes les infos sur les trois romans dont nous avons parlé aujourd'hui seront sur la page des midis incessamment, sous peu, comme on dit, vous qui nous écoutez. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.